Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Première lecture, Colossiens chapitre 3 verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je relis, s'il vous plaît. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Une autre lecture, s'il vous plaît, nous allons la faire maintenant dans le livre de la Genèse, alors au tout début. Chapitre 1er, verset 26. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le sixième jour. Les deux récits que nous avons devant les yeux, que nous avons lus, nous posent une question, enfin nous interrogent. À qui voulons-nous ressembler? La question est là. On sait qu'à l'origine, eh bien, les choses sont dites, et non seulement elles ont été dites, mais elles ont été faites. Dieu créa l'homme à sa ressemblance. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés avec ce message, cette réflexion, à qui réellement voulons-nous ressembler? Dans le monde, il y a des sosies. Il y a des gens qui se ressemblent, comme l'on dit, comme deux gouttes d'eau. Alors ça, c'est faux, parce qu'il n'y a pas deux gouttes d'eau qui se ressemblent. Les analyses qui ont été faites, les recherches, nous montrent qu'elles sont toutes dissemblables. Alors, il y a aussi des imitations dans notre monde. On a tous entendu des gens qui ont une capacité d'imiter la voix des autres, ou la gestuelle. Alors, ce sont deux personnages différents. Hein. Il y a l'acteur, et puis il y a l'imitateur. Alors on vit dans un monde comme ça. Les ressemblances et les différences. Il y a beaucoup de gens qui veulent ressembler à des modèles. Et ils font tout pour cela. Ils ont bien des façons d'être, de parler. Et puis il y a aussi, à l'opposé, des différences. Où il y a des gens qui veulent vraiment prendre et marquer leurs différences. Alors, ces deux textes insistent sur un mot que nous avons lu à plusieurs reprises. C'est tout simplement le mot « image ». Eh oui. Qu'est-ce qu'une image? Alors, est-ce qu'on s'est déjà posé la question? On a des expressions pour les enfants « sage comme une image ». Enfin, c'est pas toujours le cas. Hein. C'est une imitation, je vais citer, hein. C'est une reproduction de quelqu'un ou de quelque chose. Ce peut être un dessin, enfin, une caricature, ça ne fait pas toujours plaisir. C'est peut-être une illustration, une silhouette, une figure, un portrait, une nature morte, un film et une vidéo. Enfin, voyez, un peu tout cela, ça peut, dans notre langage moderne, eh bien, tout cela peut avoir en effet cette connotation. Nous avons lu dans notre texte, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc, Dieu a donné à sa créature humaine un certain degré de conformité, de caractère, de similitude avec lui-même. La logique veut que lorsque deux êtres se ressemblent, ils se reconnaissent, si c'est possible, en raison de leurs affinités, parce qu'ils font se retrouver en quelque sorte. Je prends un exemple, un père et son fils, une mère et sa fille, quelquefois on se dit, ça c'est la famille. Tellement les choses sont bien, bien caractérisées, bien marquées, et il n'y a pas de plus ressemblant qu'avec ceux dont nous venons. C'est vrai, c'est normal d'ailleurs, hein, c'est logique. Tant sur le plan physique que sur le plan moral, sur le plan du caractère, tu as bien le caractère de ta mère. Enfin, je n'ai cité que cet exemple. Voilà. Alors, une image fidèle reproduit les traits de son modèle. Et il y a un instrument que nous avons à plusieurs exemplaires, c'est le miroir. On en a partout des miroirs. Il y en a dans la salle de l'espace de vie, il y en a dans la salle de bain, dans les chambres, etc., etc. Ça, c'est un instrument quand même, dans toutes les formes. On en a même dans les voitures, mais on les appelle rétroviseurs, parce qu'on n'a pas besoin de regarder devant. Enfin, on n'a pas besoin de regarder ce qui se passe devant dans un rétroviseur, puisque c'est pour regarder à l'arrière. Hein, il faut avoir une bonne visibilité. Alors, on voit que le miroir a cette capacité de réfléchir à la perfection le visage. Je dis bien, hein. À moins que ce soit un vieux miroir qui soit complètement altéré. Je ne sais pas si vous avez été au musée Grévin. C'est intéressant, hein, il y a dans toutes les villes d'Europe, hein, c'est pas toujours le même. Quelquefois c'est Madame Tussaud à Londres ou Amsterdam. Hein. Mais peu importe, hein, dans toutes les villes, vous avez des grands personnages comme ça qui sont en cire. Et, il faut le dire, c'est drôlement bien imité. Hein. Ils sont à la taille, ils sont comme si on les voyait en nature, sauf qu'ils bougent pas. C'est tout. Donc ça, c'est aussi une représentation. Moi, j'ai vu le général de Gaulle, j'ai vu Monsieur Bush, enfin, je les connais tous. Hein. Je suis allé il y a quelque temps. Voilà. Hein. Mais en quoi consiste cette image de Dieu en nous? Parce que c'est important. En quoi consiste-t-elle? Alors, je voudrais vous dire qu'aucune comparaison n'est possible sur le plan physique. Et vous allez pour comprendre pourquoi, puisque la Bible dit que Dieu est esprit. Il est pur esprit. Le corps de l'homme est ce par quoi il diffère de Dieu, plutôt ce par quoi il lui ressemble. Et je m'explique. Tout d'abord, le corps humain témoigne du génie créateur de Dieu. Si nous écoutons David, quand il écrit un fameux psaume qui s'appelle le psaume 139 que nous avons médité il n'y a pas si longtemps, eh bien il est parlé de la beauté, il est parlé de la grâce. Il est parlé aussi de l'harmonie du fonctionnement du corps, c'est-à-dire de la dimension physique de l'homme. Et David s'exclamera, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Alors je ne sais pas si il était imbu de sa beauté personnelle, est-ce que tout le monde pourrait le dire? Parce que quelquefois, on n'est pas toujours d'accord avec ce que l'on voit dans le miroir. Surtout quand on se réveille le matin et que... Enfin bon, on peut toujours y remédier quand on a les instruments à côté de soi, on se peigne et puis on fait ce qui est... Mais c'est pour ça le miroir d'ailleurs. Il est fait pour que quand même rectifier un petit peu certaines choses. Alors, David en parle et il loue le Seigneur. Mais quand on voit finalement le fonctionnement, quand on est en bonne santé, on se dit, mais comment ça peut fonctionner? Mais Seigneur, tu es génial. Tu es merveilleux de nous avoir fait comme tu nous as fait. Alors, il reste un aspect qui nous fait ressembler à Dieu, c'est l'aspect moral, qui consiste dans la possession de la personnalité qui a pour essence la volonté libre ou la libre volonté de l'homme qui va lui donner ce caractère qui est celui de l'intelligence, la capacité de distinguer entre plusieurs parties à prendre et le sens moral qui permet de choisir le parti soit du bien ou soit du mal, et ça c'est la liberté. Et c'est par cela que Dieu, eh bien, c'est comme cela que Dieu nous a créés, parce que Dieu respecte finalement la créature. Autrement, on ne serait que des automates, on ne serait que des machines, on serait qu'un rouage, alors que ce n'est pas cela. Et nous nous apercevons que par cet aspect moral, eh bien, finalement, par ce choix, cette intelligence qu'il nous a donnée, cette raison, eh bien, tout ça est un ensemble de choses qui doit pourvoir nous permettre d'avoir une petite idée de notre ressemblance avec Dieu. Mais je vais aller plus loin. L'image qu'un aveugle peut avoir de son environnement n'est qu'un pitoyable tâtonnement. On le comprend. On pourrait dire qu'il voit au toucher. Oui. Est-ce la meilleure façon de voir ? Non. S'il a perdu les yeux, il va développer d'autres facultés que nous, nous n'avons pas, parce que nous ne les avons pas développées. Mais néanmoins, il est capable de lire, il lit le braille, il est capable de faire des choses formidables. Tout ça par, eh bien, le sens tactile, par les doigts, tout simplement. L'aveuglement spirituel, qui est dû au péché, conduit à la confusion, on le sait. Comme l'aveugle qui a perdu ses yeux, ben, il est dans le noir, en quelque sorte. Et on s'aperçoit que, au dire de la Bible, et nous le croyons, le bien est appelé mal, le mal est bien, et au gré des circonstances, et par souci de conformisme, eh bien, les gens font un petit peu ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement. Donc, il y a là comme un obscurantisme, quelque chose qui fait que on n'a pas une vision réelle. On n'a qu'une vision floue, si elle n'est pas totalement obscure ou obscurcie. Les vrais yeux intérieurs, Dieu nous en parle sous une appellation, c'est la conscience. La conscience, mais avec la chute, cette conscience a été la première à être frappée, à être altérée, elle a été frappée de cécité. On voit Adam à honte, il a peur, il se cache et il se voile. Donc, quelque part, il s'enferme. En d'autres termes, il va fermer ses regards à Dieu pour les ouvrir sur un autre monde, qui est notre monde, qui est le nôtre, qui n'est pas le plus beau, qui est quelquefois horrible et terrible. Donc, par cette chute, il va fermer ses regards à Dieu, et la conscience va perdre sa fonction, alors qu'elle était destinée à être une boussole, excusez-moi, c'est une expression un petit peu légère, mais alors qu'elle était destinée à être une boussole, pour indiquer toujours la bonne direction, bon, c'est le nord, naturellement, pour une boussole géographique, mais là, elle va devenir une girouette. C'est-à-dire qu'elle va tourner dans tous les sens, ça va être complètement démagnétisé, enfin, elle va perdre, finalement, là, parce que son attraction, c'est Dieu. Son regard, c'est Dieu. Son aspiration, c'est Dieu à notre conscience. Et là, elle va perdre complètement son sens. Vous avez une boussole, quand elle est perdue, elle vibre dans tous les sens, elle tourne et avant de reprendre normalement eh bien, sa position. Le paradoxe quotidien qui trahit le pécheur, c'est qu'il a une extraordinaire faculté de reconnaître les défauts chez les autres. C'est vrai, mais rarement chez lui. Une indulgence stupéfiante que nous pouvons avoir avec nous-mêmes. Et parfois une rigueur, une sévérité aussi stupéfiante par rapport à autrui. Jésus en a parlé sur le sermon sur la montagne, connaissez l'histoire de la poutre et de l'œil, enfin, tout ça. Alors, n'ayons pas peur de la vérité, c'est notre état intérieur que la Bible dévoile. Et quand on lit des textes comme Romains, chapitre 1, verset 28 et les autres, ou de 2 Timothée, chapitre 3, de 1 à 2, quand il nous est dit que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, et qu'il y a une énumération d'au moins une trentaine ou une quarantaine de péchés dans ces deux textes, ou dans chacun, eh bien on s'aperçoit que ça, c'est le diagnostic de Dieu, c'est le regard exact de Dieu. Et c'est vrai qu'il faut un certain courage et de l'humilité pour voir cette image de notre misère morale, je parle dans l'ensemble de l'humanité, d'abord chez soi et non seulement chez les autres. Et il y a un livre qui permet à l'homme véritablement de s'en sortir. qui permet d'être guéri de sa cataracte ou de sa cécité, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi elle demeure, c'est pourquoi elle reste. Et c'est pourquoi à travers les temps, eh bien, elle est encore annoncée dans le monde entier, partout. Parce qu'elle révèle la misère morale, eh bien, de l'humanité. On n'aime pas naturellement les images LED. Vous savez, quelquefois, il y a des spectacles qui viennent comme ça à travers des photos, des images, des reportages. Pff, il y a des choses qui sont terribles. Hein, on l'a vu à travers ces reporters de guerre ou autre chose. C'est des images qui sont abominables. Puis on n'a pas besoin d'aller sur un terrain de guerre. Hein. Quelquefois, il y a des représentations qui sont... Qui inspire l'enfer, hein, ou sont inspirées par l'enfer et la mort. Hein, donc elles sont repoussantes. Mais la vraie beauté, ou la laideur, la Bible nous dit qu'elle est à l'intérieur. Ouais. Elle est à l'intérieur dans le cœur, avant d'être sur le visage. Et le monde fait grand bruit, il fait grand cas d'avoir un beau visage. Alors le beau visage, on l'a, on est jeune. Enfin, je parle pas pour moi. Mais on l'a tous, d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est qu'on ne l'accepte pas. Quand on a, regardez un enfant, c'est beau, un enfant, un bébé, un enfant, un jeune homme, une jeune fille, dans la fraîcheur, bon, on est comme on est. Mais néanmoins, il y a une marque de beauté distinctive, qui est la jeunesse, qui est l'enfance, qui est la jeunesse. Mais qu'est-ce que l'on peut dire de gens qui sont arrivés à un certain âge? Ils sont beaux aussi. Ouais. Il peut y avoir aussi une beauté, même beauté visible. Alors pour se voir réellement, nous dit toujours la parole de Dieu, il faut d'abord que les yeux du cœur soient débarrassés de toute cataracte qui obscurcit la vision. Aujourd'hui, c'est une opération très courante, hein, et il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient fait l'expérience. Et après, vous voyez plus clair quand même, hein. Ça vaut mieux de voir plus clair après, hein, de toute manière. Et c'est là tout le message de l'Évangile. Et j'en viens justement à nos deux textes que nous avons. Avoir une image ou une juste image de soi-même, honnête et sans complaisance et agir en conséquence. Il y a un texte qui est très très significatif, c'est, vous le connaissez bien, puis vous l'avoir lu, c'est dans Jacques, où il est dit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et des faux raisonnements, on peut en avoir, hein. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, écoutez bien, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Qui n'est pas passé devant le miroir ce matin? Messieurs, pour vous raser. C'est difficile de se raser, hein, quand sans le miroir. Hein. C'est vrai. Enfin, je ne sais pas comment vous faites, aussi avec un électrique, mais bon. Bon, on passe tous devant le miroir d'une manière ou d'une autre. Alors vous passez devant le miroir en disant « Qu'est-ce que je suis belle ?» Non ? Ah, je voudrais vous dire une chose, c'est que le miroir ne ment jamais. Il est vrai. Il est authentique, le miroir, à moins que vous ayez de la buée. Mais vous allez quand même l'enlever parce que, bon, vous voulez vous regarder. Le miroir, c'est moi. Évidemment, si je me regarde dans le miroir et que je vois la tête de quelqu'un d'autre, je vais dire, il se passait quelque chose. Le miroir, c'est vraiment moi, c'est mon moi visible. Mais c'est pas seulement mon moi visible, c'est le moi réel aussi. Et il y a une petite nuance, c'est que quelquefois, quand je me regarde physiquement, je me vois aussi, quelquefois dans mon âme et dans mon cœur. Je me dis... Quelquefois, je ne me trouve pas très beau, dans un sens comme dans un autre, même en regardant mon âme. Et la parole de Dieu, c'est justement le miroir que Dieu nous a donné. Tantôt, il peut y avoir de l'admiration. On appelle ça de l'égomanie. Oui. Vous savez, on se regarde et on n'arrive pas à se détacher du miroir en disant « Oh, il n'y en a quand même pas deux comme moi. » Alors, je ne sais pas si vous le faites, vous le dites. Ah oui, qu'est-ce que je suis beau. Je vais être regardé aujourd'hui. Hein. On va se retourner sur mon passage. Ça émoustille. Hein. Ou alors, c'est le dévoilement de ma faiblesse, de mes faiblesses, de mes carences. Oh, j'ai encore un point ici. J'ai un bouton sur le nez. Et enfin tout le reste. Le miroir reflète tout dans sa stricte exactitude. Même dans ma manière de m'habiller, je m'aperçois, oh, j'ai taché ma cravate. Grosse tache comme ça. Le miroir me le dit, je ne l'aurais peut-être pas vu autrement. Et vaut mieux qu'il me le dise avant. Hein. Parce que si je sors comme ça, je passais quand même pour quelqu'un de malpropre. Mais oui, mais c'est une petite image que je suis en train de prendre parce que ça développe aussi quelque chose, tout cela. Donc Jacques nous dit que c'est l'image. La parole de Dieu, c'est le miroir dans lequel je peux me voir. L'image maintenant que l'homme se fait de Dieu. Et c'est intéressant quand même de le prendre en considération. On a parlé de nous, mais on parle aussi de l'image que nous pouvons avoir de Dieu. Elle n'est pas meilleure que la précédente. Vous allez voir pourquoi. Comme nous avons dit que l'homme est aveugle sur lui-même, s'il est aveugle sur lui-même, il est forcément aveugle sur Dieu. S'il se dédie par rapport à l'image que lui rend le miroir par rapport à ce qu'il voit de lui-même, alors quelle image il peut avoir de son Créateur ? C'est logique. Toute image faussée de Dieu est une vieille histoire. Dans la Bible nous dit que Dieu est inconnaissable, il est inaccessible, il est invisible, qu'il déborde toute intelligence, mais la Bible nous dit d'autre part qu'il s'est fait connaître. Eh oui, qu'il s'est fait connaître. Pourquoi il s'est fait connaître ? Pour que nous puissions finalement le reconnaître. Quand on a vu quelqu'un et qu'on a perdu de vue et qu'on le retrouve, on se dit, cette personne-là, je la connais. Et c'est peut-être un petit peu ce que l'homme ressent, parce qu'il y a toujours quelque part une image de Dieu en lui. Et quand on lui parle de Dieu, soit il va le fuir comme Adam, en disant, oh là là, oh là là, je le reconnais, mais je ne veux pas aller plus loin. Ou alors à ce moment-là, il va sentir une attirance. Et plus il va regarder, plus il va s'approcher, plus il va contempler, plus il va admirer, plus il va avoir envie. Eh oui, en ce qui concerne le Seigneur, c'est logique. Depuis la plus ancienne antiquité, l'homme n'a cessé de se représenter Dieu sous toutes les formes que son imagination lui permettait. À travers les astres, à travers la nature, à travers les animaux, à travers des hommes-dieux, enfin, que l'on a décrété, on les a appelés les dieux et les déesses. Et toute l'histoire de l'Antiquité est remplie de tout cela. Quand Paul écrira dans Romains chapitre 1er que l'homme a adoré la créature au lieu du créateur, qu'ils ont se sont donné des représentations d'animaux, de quadrupèdes, de reptiles, etc., etc. L'histoire est pleine de tout cela. Alors, comment a-t-on pu enfermer Dieu, ce Dieu qui est illimité dans une statue, dans une vulgaire représentation d'or, d'argent ou de plate. Des idoles que l'on adore et des idoles que l'on vénère. Et Paul dira eh bien, que tout cela c'est une confusion, que tout cela c'est un aveuglement, que c'est quelque chose de terrible parce que finalement eh bien, la conscience de l'homme, l'homme lui-même, l'humanité est complètement à l'inverse. Pourtant la défense était des plus claires quand Moïse est descendu du mont Sinaï, et que Dieu lui a dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, tu n'auras aucune représentation, tu ne te feras aucune idée, aucune image de ce qu'il y a dans le ciel, ni sur la terre, pour me représenter, et tu ne te prosterneras pas devant toutes ces choses. Ce genre de dévotion est devenu religion, et ce genre de dévotion a souvent été l'objet d'une industrie très lucrative, et pas seulement dans l'Ancienne Alliance, mais quand on lit par exemple le livre des Actes, il nous est parlé de toute quand Paul était à Athènes, et que là il y avait là des idoles de tous les côtés, et Paul a été irrité dans son esprit. Devant lui, la connaissance qu'il avait du vrai Dieu, et devant ses contemporains, devant tous ces gens qui étaient là et qui se prosternaient, qui divaguaient, qui extrapolaient, qui spéculaient sur prétendue divinité qui n'était que rien du tout, qui n'était que de la vanité, égarement des hommes. Un Dieu qui ne vit pas comme Paul le dit, comme Ésaïe le dira, et comme Jérémie le dira aussi, ils le diront tous, un Dieu qui ne vit pas, un Dieu qui ne parle pas, est-ce encore un Dieu? Et vous avez des textes pour cela. Hein. Et Dieu dira à un moment donné, dans le psaume 51, aux hommes, il dira, mais tu t'es imaginé que je te ressemblais? Vous vous rendez compte de la pertinence, le retour de ce que Dieu dit à l'homme, et c'était à Israël en particulier, un homme qui était censé de connaître Dieu, mais qui avait perdu la connaissance de Dieu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Une autre image est peut-être plus moderne, plus abstraite, créée de toutes pièces et qui remplit la vie et les cœurs des gens d'aujourd'hui, nos contemporains. L'idole, ou les idoles au pluriel, auxquels on sacrifie encore aujourd'hui. Si je vous parle des idéologies du XXIe siècle, des philosophies d'aujourd'hui, d'hier ou d'aujourd'hui, passion coupable ou autre, si je vous parle du sport, on parle bien des dieux du sport, si je vous parle des affections abusives, de tout ce qui s'en va un peu de droite et de gauche, et le langage qui accompagne cette adoration, qui accompagne cette vénération, qui accompagne ces dieux entre guillemets, alors on dit bien, et les journalistes trouvent les mots pour le dire, les grands-messes, ils parlent de grands-messes, grands-messes du sport, grands-messes du musical ou autre chose, grands-messes de la politique quand il y a des grands congrès et tout ça. Et on parle des adorateurs, on leur donne des noms, des supporters. Eh oui, des groupies pour la chanson. Les dieux du sport, la politique, et puis toutes sortes de choses. Et reste encore ce que les hommes ont retenu des vérités bibliques, qui, finalement, qu'ils ont hélas interprété à la manière, parce que ce n'est pas parce que Dieu a dit que les gens ont gardé dans l'exactitude de ce que Dieu avait dit. Au contraire, ils se sont servis de ce que Dieu avait dit pour le déformer. Et là, c'est beaucoup plus grave, parce que quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, eh bien, on cherche à apprendre, et Dieu nous donnera de connaître et d'apprendre. Mais quand on sait et que l'on détourne, c'est ce qu'on appelle les fausses doctrines. C'est ce qu'on appelle les faux docteurs, les faux prophètes, et on voit autant Jésus que tous les autres, eh bien, mettent en garde contre cela. Donc, ces vérités bibliques qui ont été interprétées à leur manière et qui ont été déformées, et on en a fait un Dieu religieux, un Dieu jaloux, un Dieu sévère, un Dieu punissant, un Dieu dur, et un Dieu implacable. Voilà l'image que les gens ont aujourd'hui. Et j'espère que vous n'avez pas cette image de ce Dieu parce que vous êtes chrétien et vous avez été enseigné. Et si vous avez cette image, eh bien il faut se tenir devant le Seigneur en disant « Donne-moi de vraiment voir ta réelle image qui est un Dieu, c'est vrai, de justice. C'est vrai de sainteté, de tout ce que l'on voudra que l'on connaît. Mais le Dieu de l'Évangile, c'est avant tout un Dieu de grâce, de miséricorde, qui accueille celui qui vient à lui pour le connaître, pour le découvrir ou le redécouvrir. » Le fils prodigue, quand il est revenu, il a reconnu son père, et son père a reconnu son fils, bien que le père, lui, n'ait pas changé, mais que le fils ait considérablement changé, puisqu'il est revenu vers le père dans des oripeaux de misère. Mais le père l'a reconnu, et l'a mis à la porte. Non, voilà, je voulais la réaction. Il l'a accueilli, il l'a serré dans ses bras, et il lui a fait une fête. Vous comprenez le... C'est qu'ils se sont reconnus. Il y en a un qui avait perdu de vue l'autre, mais il a voulu revenir. Et en revenant, le père lui a ouvert ses bras. Alors un Dieu dur, un Dieu implacable, décidément, je voudrais l'affirmer ce matin, s'il y avait encore quelques soupçons dans notre cœur, c'est que Dieu n'a rien de tout cela. Ce que le monde aime aujourd'hui, c'est encore et toujours ce que les Hébreux aimaient et demandaient hier dans l'affaire du veau d'or. Faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Vous connaissez l'histoire? Ah, faudrait la relire cette semaine, s'il vous plaît. Relisez-la et vous verrez, alors que les oracles de Dieu tombent d'une manière extraordinaire, miraculeuse, c'est quelque chose, c'est un prodige qui arrive sur ce peuple. Et au même moment où ils reçoivent les oracles, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, ils se mettent à faire un veau d'or. Paradoxe. Donc il y a des puissances diaboliques et sataniques qui poussent les hommes à se détourner. Parce que c'est une affaire d'adoration. Tout ça, c'est une affaire d'adoration. Faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Un Dieu taillé sur mesure. Un Dieu fait à l'image de l'homme et non le contraire. Alors que depuis les temps immémoriaux, l'homme a essayé de faire un Dieu qui lui ressemble à l'homme. Alors que là, on sait très bien qu'on prend dans, on part dans une mauvaise direction. Retrouver la véritable image de Dieu. Eh bien, comme nous l'avons vu vendredi soir pour ceux qui étaient là, on a pris un texte. On a prêché sur quoi vendredi soir? Bon, ben, je vais recommencer maintenant. Alors, monsieur Balzac, j'ai prêché sur quoi? Bon, vous n'étiez pas là. C'est pour ça que je vous ai choisi. Parce que je ne voudrais pas mettre mal à l'aise les autres. Alors, bon, alors on est un peu de sérieux. On a prêché sur cette parole quand Jésus a répondu à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Je vois les têtes qui se hochent, donc vous êtes revenus. Ouais, eh oui. Et retrouver la véritable image de Dieu, c'est l'image que nous en donne Jésus-Christ. Nous avons vu que les hommes ont un urgent besoin de mettre de l'ordre dans leur cœur et dans leur pensée. Et Paul l'écrit avec des lettres de feu, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et cet homme nouveau, à l'origine, c'est Jésus qui veut que nous soyons aussi des hommes nouveaux à sa ressemblance à lui et ressembler à Jésus-Christ, c'est aussi connaître le Seigneur. L'Évangile nous présente Dieu, son image, son caractère, ses attributs, ses qualités, dans la personne d'un homme, entre guillemets, exceptionnel et pourtant bien humain. C'est parce qu'il est humain que nous pouvons reconnaître Dieu. C'est parce que Jésus est humain, bien humain, il nous ressemble. D'ailleurs, Jésus, Sauveur, Christ, Oint, en tout, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et s'il est avec nous, eh bien nous le voyons. Nous le voyons, oui, pas avec nos yeux physiques, mais nous le connaissons. Peut-être donner quelques citations nécessaires. Dans Jean 1, chapitre 18, il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Ouais. Le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. Si vous voulez connaître le Seigneur, si vous voulez connaître votre Père céleste, il faut passer nécessairement par Jésus. Nul ne vient au Père que par moi, naturellement. Quand Philippe pose la question, toujours dans ce texte médité vendredi soir, eh bien, il dira ceci, « Mais montre-nous le Père, Jésus !» Et Jésus le lui répond, « Celui qui a vu, qui m'a vu, a vu le Père. » Voir Jésus dans toute sa splendeur. Voir Jésus face à face. Vous connaissez ces vieux cantiques? Quelle gloire! C'est voir Dieu. Dans le livre des Hébreux, encore une dernière citation, il est dit que Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et ce Fils, entendez Jésus-Christ, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ouais, Jésus, pas une religion, pas autre chose. Retrouver cette image parfaite et authentique en Jésus, eh bien nous la trouvons si nous suivons Jésus pas à pas, dans ce qui nous est présenté dans les évangiles, à travers sa vie, à travers ses actes d'amour, à travers ses paroles, à travers sa douceur, son caractère, son appel, et l'imiter autant que faire se peut. Si vous cherchez un modèle, c'est Jésus. N'allez pas chercher un modèle auprès de l'un ou de l'autre, auprès du meilleur ou de la meilleure. N'allez pas chercher un modèle auprès de votre pasteur. Ce serait une erreur, je tiens à vous le dire. Parce que moi-même, je suis dans le même combat que vous et j'essaie. J'aspire. Mais je suis loin d'être. Il faut le dire. Et quelquefois, on a présenté des leaders de mouvements ou des gens qui avaient, c'est vrai, une spiritualité peut-être au-dessus de la moyenne et des choses comme ça. Et c'est peut-être pas eux, hein, mais c'est ceux qui étaient autour d'eux, on les a donnés comme exemple et modèle, comme modèle. Eh bien, c'est une erreur, mes frères et sœurs. S'il y en a un auquel vous devez vous attacher, c'est à Jésus, et pas à un homme. Même à moi, hein. Moi je veux disparaître, hein, de toute façon, hein. Faut pas vous faire d'illusions. Hein. Et j'ai les mêmes combats que vous, J'ai les mêmes luttes. Et on a la même recherche, on a les mêmes aspirations. Alors ça serait faux. On ne suit pas un leader. On ne va pas faire comme les Corinthiens qui disaient « Moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, et moi je suis d'Apollo ». Ça c'est totalement faux, nous nous trompons. Et si nous voulons avoir une fausse idée de Dieu, eh bien c'est justement en suivant cela. On ne doit pas avoir un leader parce que quelqu'un prêche bien, parce que finalement, eh bien, il va un petit peu dans le sens de ce que nous aspirons nous-mêmes. Nous avons tous des caractères différents et quelquefois il y a des tendances, des mouvements, des toutes sortes de choses dans ce genre. Mais non, c'est Jésus que nous suivons. Il faut que ça soit clair, hein. Parce qu'autrement, vous allez avoir une fausse idée de Dieu. On peut avoir des affinités les uns pour les autres, hein. En tous les cas, une chose que nous pouvons avoir, c'est de l'amour les uns pour les autres. Accepter tout le monde sans rejeter les uns et s'enthousiasmer pour d'autres. Parce que là, c'est un déséquilibre. Alors, on a cela justement dans la personne de Jésus, le reflet de Dieu. Croire véritablement que Jésus est l'unique révélation de ce qu'est Dieu lui-même. Chercher à ressembler à Jésus. C'est retrouver l'image de Dieu qui n'est qu'une image d'ordre. Je ne citerai pas tout. Hein. Une image de clarté, une image d'amour, une image de vérité, une image de vie, une image d'abondance, une image de liberté. Bon. Voilà tout un programme digne de celui dont nous avons à retrouver l'image dans nos propres vies, et j'ajoute ceci, dans nos vies transformées. C'est pourquoi il est parlé d'homme nouveau dans notre texte. D'homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est celui qui se repent, qui passe par l'expérience de la conversion et de la nouvelle naissance. Vous l'entendez souvent, ça. Alors, puisque l'homme, image de Dieu, est intelligence, il est cœur, donc, c'est le sentiment et la volonté, et nous ne sommes pas instincts, comme les animaux. Nous ne sommes pas, nous avons des instincts, mais ça doit être transcendé par l'intelligence. Puisque finalement, l'homme, image de Dieu, est aussi conscience que Dieu est le modèle et qu'il est l'intelligence suprême, parce qu'il est le génie créateur, parce que le cœur est tout amour, eh bien, il aime ce qui ne mérite pas d'être aimé et que nous avons peut-être des efforts à faire dans ce domaine, que la volonté est toute puissante, que sa raison est absolue et que l'on peut dire qu'il est le bien parfait, que la conscience est infaillible, non pas comme ça, comme un prétendu qui habite là, vous savez où, parce qu'il est revêtu d'une justice parfaite, donc conscience infaillible. Ses qualités, à ce moment-là, dans l'imitation de celui qui nous appelle et de celui qui nous dit que nous sommes ses fils, ces qualités font de l'homme une personne. Alors, en conséquence, si nous le suivons, si nous regardons à lui, Dieu est donc une personne parfaite. Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Ça, il y a la perfection réelle, absolue de l'autre côté, et nous, il y a l'aspiration à la perfection. L'Évangile, c'est un idéalisme, c'est vrai. Nous sommes perfectibles, mais nous devons aspirer, malgré nos chutes, malgré nos erreurs, et on en fait. Mais néanmoins, nous regardons toujours vers lui. Pourquoi l'homme fait à l'image de son créature et en est-il si différent? Très brièvement. C'est l'image que Dieu se donne à lui, c'est l'image que l'homme se donne de lui-même. Sa réalité intérieure, et sa réalité intérieure s'appelle le péché, tout simplement. Le drame humain est d'avoir perdu le sens et la vision de son modèle qu'il avait en Dieu. Perfection, sainteté, justice, fidélité, amour. En clair, l'homme, livré à lui-même, s'est fait, en effet, le centre de l'univers et croit que tout pivote autour de lui. Et on appelle comment ça chez l'homme? L'orgueil. Tout pivote autour de moi. C'est pour ça que quand le miroir nous dit que tu es le plus beau, tu es le plus intelligent, tu es... Il ment là. Non, le miroir ne ment pas. C'est moi qui me mens à moi-même. C'est moi qui me mens à moi-même. Et on n'a pas besoin de se gausser sur, finalement, eh bien, des qualités physiques. Mais quelquefois, quand on dit, mais vraiment, on peut faire un peu comme le pharisien. Ah, heureusement que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ceci, qui sont cela. Vous ne croyez pas que c'est encore un péché encore plus grave, celui-ci? Alors, où est Dieu dans cette affaire? C'est que je me mets comme modèle, je me donne, je pivote sur moi-même. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? L'homme, sa force, sa science, son habileté, son ingéniosité. C'est vrai que l'homme est intelligent, on ne va pas dire le contraire. Mais à quoi cela sert-il? Dans le sens moral. Le vrai Dieu étant absent de la vie des hommes, eh bien l'homme se fait Dieu lui-même, et n'ayant aucune seule référence que lui-même pour mesure, il aboutit forcément à de fausses perspectives et à des appréciations erronées. C'est pour ça que le monde va si mal. Aujourd'hui on dit qu'il n'y a plus de principes, il n'y a plus de repères, mais pourquoi? Parce que les seuls principes et les seuls repères, ils ne sont pas dans le ciel, ils ne viennent pas d'en haut, ils sont en bas, ils sont du bas. Alors on peut toujours, on va voir des choses extraordinaires, hein, mais pas dans le bon sens. La Bible pose un diagnostic des plus réalistes sur la condition humaine. Dans le livre de l'Apocalypse, je cite très rapidement, il est dit, au chapitre 3, « Parce que tu ne sais pas que tu es aveugle, que tu es pauvre, que tu es misérable, alors que tu dis que tu es riche, que tu vois clair, et que tu as ceci et cela, alors on s'aperçoit que l'homme est en pleine déliquescence dans ce sens. Se dire bien voyant lorsque l'on est aveugle est le comble de l'ignorance. » C'est quelque chose d'incroyable. Comment un aveugle peut-il contempler son visage? Il ne peut pas. Un aveugle moral et spirituel le pourrait-il davantage s'il n'a pas le miroir, mais le vrai miroir? L'homme souffre d'un mal qu'il ignore. C'est se regarder tel qu'il est. Et se regarder tel qu'il est, se voir tel qu'il est, eh bien, ça s'appelle tout simplement le péché. Et d'autant plus tragique qu'il refuse de reconnaître son état. C'est pourquoi Paul dira à un moment donné que les hommes, eh bien, sont dans une condition, je vais vous citer quand même le texte parce que il est quand même assez intéressant, au chapitre 4 et au verset 18, quand il est dit ceci, nous allons simplement le retrouver, voilà, Éphésiens 4, 18, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. » Dérèglement en tout genre. Quoi qu'il en soit. Alors, dans notre texte que nous avons lu tout à l'heure dans Colossiens, il est bien dit que nous avons besoin de nous renouveler dans la connaissance de celui qui nous a créés. Celui qui nous a créés, c'est le Seigneur. Mais il n'est pas seulement celui qui nous a créés, il est celui qui nous a donné aussi non seulement la création, mais la rédemption. Et c'est bien pour cela que nous retournons pour lui ressembler. Renouvelle dans la connaissance. Plus nous connaissons ce qui est bon, ce qui est bien et ce qui est beau, plus nous aimons, et plus nous aimons, plus nous cherchons à imiter l'image de notre modèle. Et finalement, on ressemble toujours à ce que l'on aime le plus au monde. Je ne sais pas si c'est Johnny. Je ne sais pas si c'est... Bon, j'arrête. Mais toujours est-il que vous avez vu les groupies des artistes, les imitateurs, ils font tout pareil. Ils ont toutes sortes de choses. Ça coûte une fortune. Hein. Parce que ça, c'est du business hein, derrière. Hein. Et vous les voyez, c'est terrible. Hein. C'est curieux, hein, tout ça. Hein. Et dans tous les temps, ça a été comme ça. L'homme cherche à imiter ce qu'il aime le plus. Et si nous aimons le Seigneur, et si nous aimons, et quand nous l'aimons le plus, parce qu'il est à la première place, eh bien nous allons faire en sorte, même si on n'y arrive pas à tous les coups, mais nous allons faire ensemble de lui ressembler. Alors c'est peut-être plus difficile parce que le Seigneur est invisible. Hein. Mais ce n'est pas une conception matérialiste, c'est quelque chose de moral, quelque chose de profond à l'intérieur de nous-mêmes. Eh oui. Toute la vie nous enseigne cela. En matière de vie spirituelle, le principe reste le même et va au-delà. C'est alors que le but ultime de toute existence humaine est atteint. Il est dit « selon l'image de celui qui nous a créés ». L'image, on revient. Renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a créés. C'est pour ça que dans nos milieux à nous, dans le monde évangélique et protestant, il n'y a pas d'image. Et heureusement. Parce que c'est peut-être les images qui ont tout faussé. Dans le monde catholique, orthodoxe, beaucoup d'icônes, beaucoup de statues, beaucoup de choses. Mais celui qui lit la Bible par-delà les dénominations, hein, on ne va pas s'arrêter là. Mais par-delà les dénominations et les appellations, c'est une vision beaucoup plus intériorisée, beaucoup plus profonde, qui est au fond de nos vies, au fond de notre cœur. Et on peut dire, oui, je sais qui est Dieu. Je sais. Je peux l'affirmer. Parce que je le connais. Et non seulement je le connais, mais lui me connaît. Mieux encore que je le connais. Et quand j'arriverai devant lui, je serai connu, comme il m'a connu. Alors, on peut dire beaucoup de choses autour de cela, mais on aura certainement encore un monde à découvrir. Le péché et la chute, eh bien, ont été un véritable désastre qui a conduit la créature à s'identifier à tout, tantôt aux anges, tantôt aux démons, on peut dire, sauf à Dieu, qui lui est le vrai modèle. La vraie et authentique ressemblance, l'homme à Dieu, homme à Dieu, n'est que le résultat de ce que l'on peut produire dans nos vies, ce que Jésus est lorsque nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur, et que nous le laissons surtout étendre sa Seigneurie. Sauver, c'est une chose, mais sa Seigneurie sur nos vies, sa parole que nous acceptons et que nous croyons, son esprit que nous recevons, son exemple que nous suivons, et sa vie que nous imitons. Alors à ce moment-là, on peut dire véritablement que je suis à la ressemblance de Dieu. Enfin, ça sera fini de l'autre côté. Hein. Pour l'instant, ce n'est qu'une approche, mais néanmoins, c'est une aspiration plus profonde de nous-mêmes. Je voudrais faire une dernière comparaison avant de terminer. Dernière comparaison tirée du principe de la photographie. Vous connaissez, hein. Une photo, c'est une image, une reproduction, dans l'instantané, et vous allez pouvoir le garder. Il y a, je ne sais plus comment ça se passe aujourd'hui, il y avait de l'argentique, hein, enfin il y a encore quelques temps, hein, maintenant c'est du numérique, mais l'argentique. Il y avait donc l'épreuve dite négative, on a appris ça, moi je ne connais pas grand chose, mais je me suis un petit peu renseigné, mais très peu. Et l'épreuve dite positive, il y avait ce que l'on appelle le positif et le négatif. La première est le phototype qui représente l'image à l'inverse des luminosités du sujet. C'est ce qu'on appelle finalement le négatif. Donc, prototype, l'image à l'inverse de la luminosité du sujet. Et la seconde reproduit la réalité du sujet. C'est ce qui vous donne la photo. Bon, il y a un traitement pour cela. Et quand on fait l'analogie, elle est la suivante. L'homme pécheur est un négatif où l'image est à l'inverse de ce qu'il devrait être. Vous saisissez? On va se prendre en photo tout à l'heure. Hein. Photo de famille. Voilà. Et comme on fait partie de la famille de Dieu, on devrait pouvoir nous reconnaître. Hein. Mais je rappelle que l'homme pécheur est le négatif où l'image est à l'inverse de ce qu'il devrait être. Lorsque Christ l'éclaire, lorsque le traitement de la repentance, de la conversion et de la nouvelle naissance est passé par là, l'effusion du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, lorsque Christ l'éclaire et le transforme, il reproduit l'image réelle de ce qu'il aurait dû toujours être à la création, puisqu'on a lu dans Genèse chapitre 1er que Dieu créa l'homme à son image, ce qu'on aurait dû toujours être. Ombre et lumière, hein. Ouais, ombre et lumière, noir et blanc. Ouais. Mais maintenant, les choses sont changées. Les choses sont tout autres. Image et ressemblance de Dieu. Et je cite ce dernier texte qui illustre bien, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 3, où il est dit ceci, on va le lire ensemble, parce qu'il me semble, et vous le chantez quelquefois, nous le chantons dans un cantique ici. 2 Corinthiens 3, 18 ou même un peu avant, verset 15. Je passe le premier verset 15. Hein. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais, verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Nous passons du négatif au positif, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et le verset 18, celui que j'avais choisi, « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur, je le relis. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire.